asseyez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chapitre 25 de l'Évangile de Saint Matthieu traite de trois paraboles. Celle des dix vierges, les folles et les sages, la parabole des talents que nous venons d'entendre, et pour finir, celle du jugement dernier. Celle des vierges sages et folles insiste sur la vigilance qui nous est demandée. La parabole des talents insiste sur l'usage de la liberté que Dieu nous donne. Quelle vision de Dieu avons-nous? Et à travers cette vision, comment et pourquoi vivons-nous sur cette terre? Et la troisième parabole nous montre ce qu'il adviendra lorsque le Christ reviendra dans sa gloire à la parousie et les conséquences que ça aura pour nous. On commence. Il en sera comme d'un homme partant à l'étranger qui appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Le « il en sera comme » se rapporte à cette invitation que Dieu nous fait pour vivre, alors qu'il ne sera plus présent physiquement par son Fils. Cet homme qui part à l'étranger dans un pays inconnu, c'est le Christ. Mais il ne part pas en emportant tout, que du contraire, il nous confie tous ses biens. Il appelle ses serviteurs, et ses serviteurs, ce sont ses disciples, et par extension, nous. Nous, l'humanité. Il place sa confiance dans ses serviteurs. Il ne nous demande rien. Il n'exige rien. Il nous laisse libres. Ce qu'il nous confie, ce sont des talents. Alors un talent, c'était une unité monétaire qui valait environ 6 000 deniers, soit le salaire de 6 000 jours de travail, travail d'un ouvrier. On peut y voir dans cette image du talent donné toute la générosité de Dieu. Ce sont les dons de sa création, les dons matériels, et aussi la vie, l'intelligence, la beauté, la faculté d'aimer, ses paroles, son Fils, le Christ, la prière, son Saint-Esprit, les sacrements, l'Église. Comme il sait que chacun est différent, unique et a des capacités propres, il répartit ses biens non pas de manière égale, mais en fonction des capacités de chacun. Capacités physiques, intellectuelles et spirituelles. Mais personne n'est délaissé. Tout le monde reçoit. Quelle que soit notre histoire, il nous donne sa grâce gratuitement. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2 et au troisième, 1 seul talent. À chacun selon sa capacité. Et il partit, nous dit l'Évangile. C'est toute l'histoire de notre humanité créée par Dieu. Le Christ est venu nous enseigner et puis s'est retiré. Tout nous est confié. Qu'allons-nous faire de ces dons? Qu'allons-nous faire de ces grâces? Les deux premiers serviteurs comprennent les attentes de Dieu. Je crois qu'ils ont peut-être entendu et peut-être se souviennent-ils de la description du bon et du mauvais serviteur. Je vous la rappelle. Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent? C'est celui que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Et un mauvais serviteur se dira « Mon maître tarde à revenir et il se mettra à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec des ivrognes. » Ils connaissent aussi les conséquences et ils ont à cœur d'être de bons serviteurs, de rester fidèles à leur maître, même s'il est absent. Dieu a mis sa confiance en l'homme. Les biens confiés sont des dons gratuits. Et ce n'est pas une dette. Les deux premiers serviteurs vont répondre à cette confiance en valorisant ses biens pour produire des fruits. Ils se sentent responsables de cette générosité, qu'elle ne se perde pas, et ils veulent que leur maître soit content de voir à son retour qu'ils les ont fait fructifier. Ils expriment leur gratitude pour la générosité du maître. Ils ont travaillé à bâtir le royaume d'amour de Dieu. Saint-Exupéry disait « L'amour est la seule chose qui grandit quand elles se partagent. C'est ce qu'ont fait dans leur vie de tous les jours les deux premiers serviteurs que nous sommes d'ailleurs invités à imiter. Le troisième serviteur, lui, a peur de son maître. Il voit dans ce don une dette qu'il va lui falloir un jour rendre. Il se sent piégé. Et comme il est dit, il s'en alla creuser la terre et y cacha l'argent de son maître. Creuser la terre et cacher l'argent, c'est se refermer sur toi, sur soi, sur son nombril. Ne pas croire en l'amour, à la bonté, la miséricorde de Dieu, en sa générosité. Il craint Dieu. Il a une conception fausse de Dieu et donc de la vie que Dieu lui a donnée. Ce serviteur est une figure de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre avarice, replié sur nous-mêmes, de notre rancœur contre les difficultés de la vie, de notre peur de la vie, peur des risques, peur de l'injustice, peur de se tromper. Cette parabole nous montre deux façons d'accomplir librement notre vocation d'homme, soit dans l'amour et l'ouverture aux autres, soit dans le repli sur soi. Mais il faut savoir que ce que nous ferons entraînera des conséquences. Souvenez-vous, dans leur Deutéronome, Dieu avait dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Après un long temps, le maître revint et il leur demanda les comptes. Comment avait-il géré les dons reçus ? Personne, en tout cas, ne pourra dire qu'il a été mis sous pression, par l'urgence, par un délai limité, qu'il n'a pas eu le temps. Et les deux premiers serviteurs leur montrent les résultats de leur travail. Ils viennent sans crainte, ils viennent dans la confiance. Ils montrent que le maître a eu raison de leur faire confiance et lui offre les fruits de leur travail. « Maître, tu m'avais remis 5 ou 2 talents, en voici 5 ou 2 autres que j'ai gagnés. » Ils ont participé positivement au développement du monde et à leur propre épanouissement. Et ils pourraient dire comme Saint Paul, « La grâce, l'amour que le Seigneur m'a donné, n'a pas été vaine. Ils ont choisi la vie, mais la vie avec Dieu, dans et avec son esprit. » Et le maître répond, « C'est bien, serviteur bon et fidèle. En peu de choses tu as été fidèle, je t'établirai sur un grand nombre. Entre dans la joie de ton maître. » Remarquez que le maître n'a pas repris ce qu'il avait donné. D'abord, il les félicite, « C'est bien. » Ensuite, il les loue, « Serviteur bon et fidèle. » Il loue leur humilité. Ils n'ont pas pris sa place. Il loue leur bonté et leur fidélité à son œuvre. Puis il montre l'équité dont le maître, va faire preuve. En peu de choses, qui sont les biens de la vie présente, tu étais fidèle. Je t'établirai sur un grand nombre. Je te donnerai les biens spirituels, la vie éternelle avec Dieu. Enfin, il donne la récompense. Entre dans la joie de ton maître. La joie, c'est le repos de l'âme dans le Seigneur. Ce n'est pas la joie qui porte sur les biens extérieurs. On n'entre pas dans une joie extérieure. C'est elle qui entre en nous, mais pour un petit temps. Ici, c'est nous qui sommes invités à rentrer dans la joie du plus grand que nous. C'est ce qui nous attend, si nous aussi, nous œuvrons à bâtir le royaume de Dieu, à faire grandir son amour dans le monde. Et qu'a fait le troisième serviteur? Pourquoi le maître le traite-t-il de mauvais et paresseux serviteur? Et la réponse du troisième serviteur, c'est « Maître, je t'ai connu comme un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et ramassant où tu n'as pas répandu. Aussi pris de crainte, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici donc, tu as ce qui est à toi. » Le troisième serviteur n'a rien fait des dons de Dieu, que du contraire, il les a enterrés pour ne plus les voir. Il s'est coupé de Dieu, par peur ou par égoïsme, par vanité par orgueil. En somme, il n'avait pas besoin de Dieu pour vivre. Et il commence par se justifier. C'est signe qu'il n'est pas à son aise. Il va d'abord blasphémer. Il assimile Dieu uniquement à un homme dur, en oubliant sa bonté et sa miséricorde. Un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et ramassant où tu n'as pas répandu. Et pourtant le Christ avait dit à ses disciples, « Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur travail. » Dans le royaume d'amour de Dieu, on ne travaille pas pour soi, mais pour Dieu. On sème des graines d'amour et d'autres profiteront aussi des fruits. Étant centré sur lui-même, ce troisième serviteur ne voyait pas la finalité. Il est envahi par la peur. « Je suis allé cacher ton talent. » Mais il se croit innocent, qu'on ne peut rien lui reprocher. « Voici ton talent, tu as ce qui est à toi. » Il n'avait pas compris que l'amour, comme disait Saint-Exupéry, ne grandit que s'il est partagé. Que ce qu'il voyait comme la dureté de Dieu n'est autre que son amour qui accueille tous, pas uniquement ceux qui ont vécu avec son Fils, mais aussi toute l'humanité, même ceux où n'a pas encore été semée la bonne nouvelle. Chacun est ainsi invité à être le témoin de cet amour. Le maître avait félicité, loué, montré son équité et donné la récompense aux autres serviteurs. Et ici, il va le réprimander en montrant l'inexactitude de ses dires. Et il lui dit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et je ramasse où je n'ai pas répandu. » Ce qui ne veut pas dire qu'il est dur. Il lui dit, qu'il aurait dû faire au minimum. Tu devrais donc porter mon argent au banquier. Le banquier, il a deux fonctions. D'abord, c'est de vérifier que l'argent est bon, et le deuxième, c'est de faire fructifier cet argent. Le banquier ici symbolise toutes les personnes qui sont là autour de nous pour nous aider, pour nous faire progresser sur notre chemin. Lorsqu'on a peur, qu'on craint de se tromper, osons demander de l'aide. Et il montre alors l'équité de son jugement. Et il lui donne la sentence. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui ne fait pas fructifier les dons reçus, par peur ou par paresse, finit toujours par les perdre. Un amour non partagé ne vaut rien. Dieu attend de nous que nous fassions fructifier ce qu'il nous a donné pour bâtir le royaume d'amour auquel il nous destine. Il désire nous voir co-créateurs de l'humanité sauvée. À ce Dieu d'amour soit honneur, gloire et louange dans les siècles des siècles.